RFI, les 21h30 à Bujumbura et à Maputo, 19h30 à Conakry et à Bamako.
Sylvie Berruet.
Bonsoir. À la une de cette édition, la guerre dans l'Est de la RDC et le Qatar qui reçoit le M23 ainsi qu'une délégation congolaise à Doha. Le Qatar qui avait déjà réuni il y a une dizaine de jours les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. La crise au Soudan du Sud et les menaces sur l'accord de paix depuis l'arrestation de Riek Machar, le vice-président, le médiateur kényan, l'ex-premier ministre Raila Odinga est arrivé à Juba et le secrétaire général de l'ONU, lui, appelle les dirigeants sud-soudanais à déposer les armes. Dans l'actualité également, le Gabon, l'avocat de Sylvia Bongo, l'épouse du président déchu Ali Bongo et de son fils Nourdine, dément les propos du président de transition Brice Olingi Nguema. Il avait affirmé que ses clients incarcérés depuis le putsch d'août 2023 à Libreville ont subi des actes de torture. Le bilan du sommet de Paris contre la malnutrition, plus de 27 milliards de dollars promis, c'est un défi alors que l'aide américaine a été supprimée par Donald Trump. Le Qatar toujours sur le devant de la scène diplomatique dans le conflit dans l'Est de la RDC, après avoir accueilli le 18 mars et à la surprise générale une rencontre entre le président congolais Tshisekedi et rwandais Kagame, Doha reçoit des délégations de la RDC et du groupe armé M23. Alors pour autant, doit-on y voir le début d'un dialogue direct entre les deux parties à Kinshasa, Pauline Azidi?
Officiellement, aucune information ne circule sur ce qui se passe actuellement au Qatar. Aucun camp n'a d'ailleurs encore communiqué sur sa présence à Doha. Difficile de confirmer, avoue en effet un proche du palais ici à Kinshasa, qui ajoute que désormais le président agit en toute discrétion. Une autre source à la présidence congolaise nous confirme tout de même qu'une délégation de RDC est bien arrivée au Qatar, délégation composée des chefs du renseignement. Plusieurs autres sources confirment, elles, la présence à Doha du M23. En revanche, pas d'informations sur la venue de représentants de Kigali. En tous les cas, cette activité diplomatique pose la question du rôle de cette médiation qatarienne qui prend de l'importance. Après l'entretien des deux présidents, plusieurs sources proches du dossier expliquaient pourtant que l'objectif n'était pas de créer un processus de Doha, mais de reconstruire la confiance. Est-ce que ces délégations vont se rencontrer ? Personne ne s'avance sur ce point. Il y aurait plusieurs préalables à régler avant de pouvoir réunir autour de la table les différents acteurs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La crise au Soudan du Sud. Le Kenya a nommé hier un envoyé spécial. Le président kenyan William Ruto a désigné l'ancien opposant Raila Odinga. La tension reste vive depuis que mercredi soir, le premier vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité soudanaises. Raila Odinga est donc arrivé à Juba pour une mission de médiation. Gaëlle Alex.
Engager des discussions, tenter de réduire la tension et faire un rapport. C'est la mission que William Ruto a confiée à Raila Odinga. Sur X, le président kényan affirme s'être entretenu hier avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir au sujet de l'arrestation de Riek Machar. Selon Korir Singoï, le ministre des Affaires étrangères kényan, Raila Odinga doit rencontrer les deux hommes ainsi que l'ensemble des parties prenantes à Juba. C'est en concertation avec le président ougandais et le premier ministre éthiopien que William Ruto a désigné Raila Odinga. Les pays de la sous-région regardent avec inquiétude ce qui se passe à Djouba. C'est notamment grâce à la médiation de l'IGAD, l'organisation régionale de la Corne de l'Afrique, qu'un accord de paix avait été trouvé en 2018 pour mettre un terme à plusieurs années de guerre civile. Dans un communiqué publié hier, Werkneg Ebeyaou, son secrétaire général, demande à ce que toutes les parties se retiennent de commettre des actions unilatérales qui violent l'accord de paix. Il prévient, le retour de la guerre aurait des conséquences dévastatrice pour le peuple sud-soudanais et toute la région. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Et Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, lui aussi s'est exprimé face au regain de tension de ces dernières semaines au Soudan du Sud. Il demande aux dirigeants de déposer les armes.
RFI à Libreville. 104 FM.
Dans l'actualité également, le Gabon et ses toutes dernières déclarations, les avocats de la famille Bongo réagissent aux propos du général Olingi Nguema sur RFI et France 24, des propos tenus mardi. Le président de la transition gabonaise avait assuré que Sylvia et Nourdine Bongo, détenus depuis le coup d'État du 30 août 2023, n'avaient pas été victimes de torture et qu'un procès aurait lieu au terme de l'enquête sur la base d'éléments que la justice a recueillis contre eux. mais selon maître François Zimmeret, donc l'avocat de Sylvia Bongo et de son fils Nourdine, non seulement ses clients sont détenus hors de tout cadre légal, mais ils ont été victimes d'actes de torture dont il dit avoir vu lui-même les marques physiques et mentales et pour lesquelles il a saisi la justice en France. Il est au micro de François Mazet.
J'ai souvent rencontré des victimes, j'ai vu des choses difficiles. Mais je dois dire que j'ai rarement été bouleversé comme je l'ai été lorsque j'ai vu Sylvia Nourdine Bongo. Et j'affirme, ils ont été torturés. Peut-être que le général ne le sait pas. Et ces tortures avaient pour objectif d'obtenir d'eux le transfert de la totalité de leurs biens auprès de proches du régime. Leurs comptes ont été vidés, les villas qu'ils possédaient, les biens immobiliers qui appartenaient à Sylvia Bongo avant son mariage ont été réattribués au président Oligui ou à des proches. Voilà ce qui s'est passé. Vous savez, ce sont des gens qui sont dans un deuxième sous-sol, sans voir le jour, depuis 18 mois. Dans des conditions épouvantables, ils ont été torturés dans des conditions que je ne vais pas détailler pour ne pas porter atteinte à leur intimité et à leur dignité. Je l'ai vu de mes propres yeux, je sais reconnaître quelqu'un qui est traumatisé, les récits sont concordants, il se trouve qu'il y a eu aussi des témoignages, donc nous avons un dossier qui est extrêmement solide.
Voilà donc maître François Zimmeret, l'avocat de la famille Bongo. Et concernant Ali Bongo, maître Zimmeret dément qu'il soit libre de ses mouvements, comme l'a dit le président de la transition gabonaise. Son avocat parle d'une assignation à résidence de fait. Direction le Sénégal, où les autorités ont annoncé une nouvelle baisse prochaine du prix du riz. Et c'est une bonne nouvelle car c'est l'aliment le plus consommé dans le pays. Le prix passera de 410 francs CFA le kilo à 350 francs CFA dès le 3 avril. Cette mesure permise par des négociations avec les pays producteurs, mais aussi par la baisse des cours mondiaux. Explication Juliette Dubois.
Tieboudienne, Niassa, le riz brisé importé d'Asie est le produit alimentaire le plus consommé au Sénégal, avec une demande annuelle d'1 300 000 tonnes. Les discussions au sein du Conseil national de la consommation ont abouti à une réduction de 60 francs CFA du kilogramme, fixant désormais son prix de détail à 350 francs CFA contre 410 francs CFA auparavant. Le contexte mondial a facilité cette mesure puisque le prix du riz est à la baisse depuis le début de l'année. Les pluies abondantes en Asie ont stimulé la production. L'Inde a repris les exportations de riz brisé début mars et ses concurrents asiatiques comme la Thaïlande ont baissé leurs prix pour rester compétitifs. Le ministre de l'Industrie et du Commerce Serine Gaye Diop s'était également rendu en Inde d'où provient l'essentiel du riz consommé dans le pays pour obtenir des conditions d'importation plus avantageuses en supprimant notamment des intermédiaires. La mesure qui s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à réduire le coût de la vie des Sénégalais sera officiellement entérinée par le président Bassirou Diomaye Faye le 3 avril. Un dispositif renforcé de surveillance et de contrôle sera mis en place. Juliette Dubois, Dakar. RFI.
Contre la malnutrition, l'action collective peut faire la différence. Hein. C'est ainsi avec ces propos que la secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies, Afshan Khan, a refermé à la mi-journée le rideau sur le sommet de Paris contre la malnutrition. Il s'agissait de la 3e édition, mais de la première depuis l'annonce du quasi-démantèlement de l'aide américaine par Donald Trump. 106 États et plus de 500 participants se sont réunis pendant 2 jours dans la capitale française et malgré le désengagement américain, la mobilisation a été au rendez-vous car les États, la société civile et les donateurs privés ont promis plus de 27 milliards de dollars d'investissement. Un record mais aussi un défi salué par la France. Explication Christina Okello.
Nous avons dépassé la somme de Tokyo sans les États-Unis, déclare soulagé Tani Mohamed Solehi, ministre délégué à la francophonie. La France salue une prise de conscience mondiale contre la malnutrition après 2 jours de sommet à Paris. Plus de 27 milliards de dollars ont été promis, 5 milliards pour la Banque mondiale, 9 pour la Banque africaine de développement et plusieurs milliards de la part du secteur privé. Un record alors que l'aide américaine s'effondre depuis le démantèlement de l'USAID par Donald Trump. L'édition 2025 s'est donc tenu sans le premier bail mondial, mais avec l'ambition d'ancrer la nutrition dans 80% des budgets nationaux sur 5 ans. Objectif, améliorer les repas scolaires, mais aussi lutter contre la faim, le surpoids et la précarité alimentaire. Mais certains restent prudents. On se vante d'avoir dépassé Tokyo, mais on n'a jamais vu la couleur de ces fonds, rappelle une activiste ougandaise. Le défi reste donc la mise en œuvre et la continuité du processus. Les États-Unis n'ont toujours pas confirmé l'accueil de la prochaine édition censée se tenir à Los Angeles.
Christina Okello, il est 20h40 ici à RFI. Bonne soirée à vous.